En France, nous avons le procureur de la République qui est l'officier établi pour agir en justice au nom de ceux qui plaident. Mais avant lui, sous Napoléon, il y a eu un procureur impérial et sous la royauté, un procureur du roi. Eh bien, le prophète Osée est le procureur du royaume de Dieu et il plaide au nom de l'Éternel contre Israël, son peuple, et sa plaidoirie dure et dure encore. Le chapitre 9 est au milieu de la section du livre constituée de deux cycles d'oracles de condamnation du peuple de Dieu et cette section couvre l'équivalent d'environ 5 chapitres. Osée y fait une lecture détaillée de l'acte d'accusation qui expose les faits délictueux imputés au peuple d'Israël nord. Dans le chapitre 8, le précédent, le prophète a rappelé une fois encore les fautes religieuses et politiques des Israélites du Nord qui s'imaginent connaître Dieu alors que par leurs actions, ils l'ont rejeté, lui et sa loi. Au lieu de placer leur foi en l'Éternel qu'ils pensent satisfaire par quelques rites religieux, ils se confient en des idoles et alliances humaines pour obtenir sécurité et prospérité. Mais Osée leur annonce que le châtiment qui les guette se rapproche à grands pas. Bientôt, le roi assyrien, dont les Israélites sont tributaires, va se retourner contre eux et ils seront exilés dans un pays étranger où ils deviendront esclaves comme leurs ancêtres en Égypte. Je commence à lire le chapitre 9. « Ne te réjouis pas, Israël, n'exulte pas de joie comme les autres peuples, car tu as délaissé ton Dieu pour te prostituer, et sur toutes les aires où l'on procède au battage du blé, tu as aimé le salaire de la débauche. » Verset 1. Chaque cycle d'oracle de condamnation du royaume des 10 tribus débute par l'Éternel qui interpelle son peuple. Avec cette nouvelle apostrophe commence donc le second cycle d'oracle de condamnation. Une fois encore, le prophète va annoncer et décrire le châtiment qui va fondre sur les Israélites, puis il va récapituler leurs péchés depuis que leur nation a été fondée. Cette longue liste explique pourquoi ils seront expulsés de leur pays. Quand le prophète Osée écrit ces paroles, le royaume des 10 tribus est prospère et vit tranquille. Les Israélites attribuent leur bénédiction aux idoles et croient que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est l'époque de la moisson qui a été bonne et ils font la fête. Mais l'Éternel les avertit que le temps n'est pas propice à se réjouir comme le font les autres peuples parce qu'ils vont au devant du jugement à cause de leur idolâtrie qui est assimilée à de la prostitution. En effet, ayant abandonné l'Éternel, les Israélites rendent un culte au faux Dieu. Sur toutes les aires de battage où s'amassent des récoltes abondantes, ils adorent Baal, le dieu de la fertilité. En vénérant cette idole, Israël a commis un adultère religieux envers l'Éternel et touche un salaire comme une prostituée. Cette paye n'est pas en espèces, mais en nature et est constituée de produits du sol, le blé de l'aire de battage, les raisins, les figues, l'huile, tous les aliments, la laine et le fin lin. Israël, femme adultère de l'Éternel, croit qu'en se prostituant aux idoles, en adorant Baal, en retour, ce faux dieu bénira ses récoltes et lui donnera toutes les autres nécessités pour bien vivre. Je suis persuadé que vous n'adorez pas Baal, mais n'a-t-il pas été remplacé par un compte en banque cossu ou des actions bien placées à la bourse? Alors, quand la santé économique du pays est bonne, on se sent bien, on est joyeux, parce que l'avenir nous sourit, du moins c'est ce qu'on veut croire. Des Écritures, les Français ne disent rien ou du mal. Mais par contre, ils ne disent que du bien du Dieu de l'argent qui, curieusement, a un nom dans les évangiles. Il s'appelle Mammon. La question qui se pose est donc, avez-vous ou ai-je remplacé Baal par Mammon aux dépens de Dieu? Si oui, alors que vais-je devenir quand le marché s'effondrera? En 2008, suite aux débâcles financières que l'on sait, Plusieurs personnes qui avaient perdu gros se sont suicidées, comme pour accompagner dans la mort leur idole qui venait de périr. Je continue le texte. Mais l'air et le pressoir ne les nourriront pas, la récolte de vin la trompera. Verset 2. Israël, la prostituée, sera trompée par une vendange qui ne se fera plus, et au moment de couper les blés et de ramasser les olives, ce sera la disette. Parce que Israël a commis l'adultère avec les idoles, les aliments et même la nourriture de base viendront à manquer avant de disparaître complètement quand les Israélites seront envahis par les Assyriens puis déportés en terre d'exil. À cause de ce malheur, toutes les récoltes cesseront puisque ceux qui cultivaient le sol auront disparu. À cette époque, on appelait pressoir une forme de cuve taillée dans le roc et dans laquelle on pressait les olives et foulait le raisin. Je continue le texte. Ils n'habiteront plus dans le pays de l'Éternel. Éphraïm reprendra le chemin de l'Égypte et ils devront manger des aliments impurs en Assyrie. Verset 3. Cette fois, la prophétie est très précise parce que sur le point de se réaliser. Le prophète décrit le châtiment comme un retour à la case départ en quelque sorte, puisque l'Assyrie deviendra la nouvelle Égypte d'Israël. Dans les livres de Moïse, il est écrit que la terre promise appartient à l'Éternel et que c'est lui qui a la charge de la fertiliser. Mais à partir du moment où les Israélites ont attribué les bonnes récoltes du pays à l'idole Baal, ils ont perdu le privilège d'y habiter dans la paix et la prospérité, et de plus, ils en seront expulsés. En Assyrie, que le prophète Amos appelle une terre impure, les Israélites devront se nourrir de tout et de n'importe quoi s'ils veulent survivre. Ils se sont souillés en se prostituant aux idoles et en offrant les prémices de leur récolte à Baal au lieu de l'Éternel. En conséquence, leur châtiment sera de manger en terre idolâtre les aliments souillés des peuples impurs parmi lesquels ils habiteront. Je continue le texte. Ils ne verseront plus de vin en libation pour l'Éternel, et ils n'offriront plus de sacrifices qui lui soient agréables. Leur nourriture sera comme un repas de deuil. Ceux qui en mangeront se rendront tous impurs. Leur pain ne servira que pour leur subsistance, mais il n'entrera pas dans le temple de l'Éternel. Verset 4. Le vin devait accompagner les sacrifices d'animaux offerts en action de grâce ou en holocauste. Les Israélites exilés étant jugés, il ne leur sera pas possible de participer aux cérémonies qui faisaient partie du culte de l'Éternel dans le temple de Jérusalem. Ils ne pourront pas non plus lui offrir de sacrifices, ni verser de libations de vin, les rites au moyen desquels la nation d'Israël communiait avec son Dieu. Le peuple offrait un culte à l'Éternel et en retour il était béni par lui. Cette relation privilégiée est terminée et les Israélites du Nord exilés en Assyrie sont mis sur le même pied que les païens religieusement impurs. Pour cette raison, tous leurs repas en terre d'exil seront considérés comme s'ils avaient été pris aux côtés d'un mort, car selon la loi, la présence de son cadavre rendait tous les aliments rituellement impurs. On pourrait penser que toutes les privations que mentionne le prophète ne gêneront guère les Israélites du Nord, puisque de toute façon ils avaient rejeté l'Éternel depuis fort longtemps. Mais justement, une fois en exil, ils vont se rendre compte que leurs idoles étaient vaines et qu'ils subissent la colère de Dieu. Alors ils vont désirer et vouloir retourner à l'Éternel et l'adorer au moyen du rituel de la loi. Mais ce sera impossible et c'est bien là que réside leur châtiment. Le texte ne dit pas qu'ils se lamenteront, verseront des pleurs et grinceront des dents, mais ce n'est pas exclu. Je continue. Que ferez-vous alors aux jours d'assemblée cultuelle et pour les fêtes de l'Éternel? Verset 5. Cette question de rhétorique met l'accent sur la situation dramatique des Israélites. La loi de Moïse ordonnait à tout adulte du sexe masculin, n'ayant pas d'infirmité et capable de marcher, de se rendre au sanctuaire de l'Éternel et de se présenter devant lui 3 fois par an lors des fêtes solennelles ou rassemblements. Il y avait d'abord la Pâque, qui était célébrée le soir du 14e jour du premier mois. Elle était accompagnée de la fête des pains sans levain qui commençait le 15e jour et durait 7 jours. Ensuite, on avait la fête des semaines, aussi appelée fête de la moisson, ou jour des prémices ou des premiers fruits, et que l'on nomma plus tard Pentecôte, parce qu'elle se célébrait le 50e jour après la Pâque. En troisième lieu, on avait la fête des cabanes ou tabernacles ou des récoltes, qui débutait le 15e jour du 7e mois et durait 8 jours. Jésus ayant accompli tout ce qui est juste, il est certain qu'il assistait à ces 3 fêtes annuelles. Les Israélites du Nord, qui maintenant désirent célébrer les fêtes en l'honneur de l'Éternel, en sont privés parce qu'ils sont prisonniers en terre étrangère. Ils continuent donc à transgresser la loi, ce qui perpétue leur culpabilité et aussi leur malheur. L'exil était le pire des châtiments qui auraient pu leur arriver. Je continue le texte. Car les voilà qui partent à cause de la destruction. L'Égypte les recueillera, Memphis les ensevelira, les orties prendront possession de leurs trésors précieux et les ronces croîtront dans leurs habitations. Verset 6. Ceux qui partent à cause de la destruction sont les Israélites qui ont échappé à l'épée de l'armée assyrienne qui a envahi leur pays et semé la désolation. Ils partent en terre d'exil. Dans ce passage, l'Égypte est à nouveau présentée comme une analogie, le type même de la servitude. Non seulement les Israélites du Nord seront déportés, mais ils y mourront. L'expression « l'Égypte les recueillera », Memphis les ensevelira est une répétition de la même pensée sous forme poétique. En hébreu, les 2 verbes font assonance pour accentuer le parallélisme. Situé à 30 kilomètres au sud du Caire, Memphis ou Nof est la capitale de la Basse Égypte. Cette ville est célèbre pour ses pyramides qui en réalité sont une sorte de mausolée d'immenses monuments funéraires construits à la gloire du défunt royal. En mentionnant Memphis au lieu de la nécrologie égyptienne, le prophète parle sur un ton ironique et moqueur, car il dit en substance que les Israélites auront droit à un enterrement de première classe, alors qu'en fait, beaucoup finiront dans une fosse commune loin du pays que l'Éternel avait donné à leurs ancêtres. Pendant ce temps, en terre promise, leurs héritages seront détruits, les ronces et les orties gagneront leurs champs et les moisissures leur maison. Je continue le texte. Le voilà arrivé, le temps du châtiment. Ils sont venus, les jours du règlement des comptes. Sache-le, Israël, il est fou le prophète, l'homme qui a l'esprit divague. Tes fautes abondantes en sont la cause, ainsi que cette hostilité qui vous anime. Verset 7. Pour comprendre la deuxième partie de ce verset, il faut l'examiner très soigneusement et tenir compte du fait qu'osé parlant sous le coup de l'émotion passe facilement du coq à l'âne sans transition. Mais tout d'abord, dans la vision prophétique qu'il reçoit, il a devant ses yeux le jour du châtiment, c'est-à-dire l'invasion du territoire des 10 tribus par les armées assyriennes, et il en est ébranlé. L'homme qui a l'esprit est osé en personne. Tous les prophètes de l'Éternel étaient animés ou saisis par l'Esprit de Dieu quand ils prophétisaient. Sans cela, leurs paroles n'auraient pas été celles de Dieu. Tout comme précédemment avec « l'Égypte les recueillera, Memphis les ensevelira », il est fou le prophète, l'homme qui a l'esprit divague, est un parallélisme poétique où la même pensée est répétée 2 fois. En hébreu, le vocabulaire de ces affirmations est acerbe et on le retrouve dans les textes sacrés, dans la bouche d'hommes impies qui tournent en dérision les prophètes de l'Éternel. Ces propos sont tout d'abord dits par certains auditeurs d'Osée qui réagissent avec des paroles injurieuses à son encontre parce que le prophète leur annonce un exil imminent. Puis, Osée reprend ses insultes à son compte, mais sans les écrire à nouveau. En d'autres mots, il dit « Oui, je suis fou, oui, je divague », puis il explique pourquoi et ajoute que c'est à cause, d'une part, de la longue liste de péchés du peuple des Israélites du Nord, et d'autre part, de leur profonde hostilité à son égard. Je continue le texte. « Mais moi, la sentinelle d'Éphraïm, moi, le prophète, je suis avec mon Dieu. Vous me tendez des pièges partout sur mon chemin et vous m'êtes hostile dans le pays de mon Dieu même. » Verset 8. Les villes fortifiées postaient des sentinelles sur les remparts afin qu'ils scrutent l'horizon et avertissent les habitants en cas d'attaque ennemie. Les prophètes que l'Éternel plaçait parmi son peuple jouaient le même rôle. Ils devaient avertir la population de la venue du jugement divin à cause de leurs péchés, afin qu'ils s'en détournent et reprennent le droit chemin en obéissant à la loi de Moïse. Mais dans son ensemble, le peuple élu, que ce soit Israël Nord ou Juda, a plutôt été hostile envers les prophètes de l'Éternel, justement parce qu'ils dénonçaient leurs fautes et étaient considérés comme des empêcheurs de tourner en rond en leur annonçant que Dieu allait les juger. Les faux prophètes, par contre, étaient à la solde du royaume et récupéraient également la viande des animaux sacrifiés, ce qui fait que leur rôle était de plaire, au même titre que les mignons et les courtisanes du roi. Comme tous ceux qui ont régné sur les 10 tribus du Nord étaient idolâtres, ils n'appréciaient pas du tout d'être repris par les prophètes de l'Éternel. Par exemple, en parlant du prophète Michée, le roi d'Israël a dit « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais ». L'attitude générale des Israélites de Juda envers les prophètes que l'Éternel leur envoyait est résumée par Jérémie en une toute petite phrase qui est « Nous n'écouterons pas ». Dans la mesure où les vrais prophètes disaient la vérité et ne caressaient pas les oreilles, ni du roi, ni du peuple, aucun ne risquait d'être élu l'homme de l'année, mais tous risquaient leur peau. Osée ne fait pas exception et il est pris à partie par ses contemporains qui n'apprécient pas de l'entendre dire qu'il voit arriver les armées assyriennes qui envahissent le pays et emmènent ses habitants captifs. Je continue le texte. Ils sont profondément enfoncés dans la corruption, comme ils l'étaient jadis au jour de Gibéa. Mais Dieu leur demandera compte de leurs péchés, il châtiera leurs fautes. Verset 9. Si vous pensez avoir lu dans les journaux ou vu à la télé des choses horribles, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il était une fois le temps des juges dans le territoire d'Israël. Un Lévite qui voyageait s'est arrêté dans la ville de Gibéa, qui appartenait à la tribu de Benjamin. Dans la nuit, il a été agressé par une bande de vauriens bisexuels qui ont violé sa concubine toute la nuit. Elle en est morte. Alors, son mari l'a découpée en 12 morceaux qu'il a envoyés au chef des 12 tribus. Ce fut le choc. Les 11 se rassemblèrent et dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. » Comme les Benjaminites, les habitants de la tribu de Benjamin, ne voulaient pas punir les coupables, il y eut une guerre civile qui fut une immense boucherie. Du côté des 11 tribus, 40 000 morts et du côté de Benjamin, 25 100 morts. Toutes les femmes, enfants, vieillards et animaux appartenant aux Benjaminites furent massacrés et toutes leurs villes brûlées. Au final, il ne restait que 600 hommes benjaminites. Alors les Israélites voulurent leur trouver des femmes afin que la tribu ne disparaisse pas. Le problème est qu'ils avaient tous juré devant l'Éternel de ne pas donner leur fille en mariage à un Benjaminite. Mais ils ont découvert qu'une ville de l'autre côté du Jourdain, qui appartenait à Israël, n'avait pas envoyé de combattants, et donc ses habitants n'étaient pas liés par le serment. Alors ils ont tout simplement massacré tous les hommes et les femmes mariées, ainsi que tous les enfants, et ils ont récupéré 400 jeunes filles vierges qu'ils ont données aux Benjaminites. Mais le compte n'y était pas. Alors ils ont profité d'une fête en l'honneur de l'Éternel pour dire aux 200 hommes de Benjamin qui étaient en manque de femmes de se mettre en embuscade et chacun enlèverait une jeune fille parmi les danseuses. Affaire conclue, et c'est ainsi que la tribu de Benjamin s'est refaite une santé. Le prophète Osée compare la condition morale des Israélites nord, dont il est la sentinelle, à la gangrène morale de la ville de Gibéa et par extension de la tribu de Benjamin, puisque ses dirigeants n'ont pas estimé nécessaire de punir les coupables du crime odieux qu'ils avaient commis. La profondeur de la déchéance et de la turpitude humaine est un gouffre qui, semble-t-il, est sans fond.